Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 11 juillet 2017 au sommaire. En Côte d'Ivoire, inculpation de deux leaders des ex-rebelles démobilisés à Boaké. L'association congolaise pour l'accès à la justice exige la libération de deux membres détenus depuis trois semaines par l'armée de la RDC. Human Rights Watch estime que l'opération du gouvernement sénégalais visant à éliminer la mendicité des enfants dans les rues n'a pas atteint tous ses objectifs.
Les maîtres coraniques, les écoles coraniques qui envoient les enfants talabis dans la rue pour les forcer à mendier n'ont pas du tout été poursuivis ou sanctionnés pour le fait qu'ils exploitent les enfants dans cette façon.
Interview à suivre dans la deuxième partie de cette édition. Et puis le Qatar et les États-Unis ont signé un mémorandum d'accord contre le financement du terrorisme. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, deux leaders des anciens rebelles démobilisés qui ont brièvement bloqué dimanche une entrée de Boaké ont été inculpés et incarcérés. Les précisions avec Eki Abadou.
Le président du groupe des démobilisés, Amadou Ouattara, et son porte-parole, Mekbe Diomandé, ont été inculpés de troubles à l'ordre public et manifestations non autorisées. Les anciens rebelles qui ne sont pas intégrés dans l'armée ivoirienne réclament des primes de 18 millions de francs CFA et ils sont près de 6 000. Dimanche, ils ont bloqué l'accès sud à la deuxième ville du pays. Amadou Ouattara et Mekbe Diomandé n'ont pas participé à cette manifestation et n'y étaient pas favorables. Le vice-président du groupe de démobilisés, Aboudou Diakité, a demandé la libération des deux leaders avec de sincères excuses. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs mutineries d'anciens rebelles devenus soldats qui ont fini par obtenir gain de cause et recevoir une prime de 12 millions de francs CFA.
Une ONG congolaise exige la libération de deux militants opposés au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ils sont détenus par l'armée congolaise depuis trois semaines à Kinshasa. Les explications de Solange Nyamulisa.
L'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, exige la libération de Jean-Marie Kalondji et de Silva Mikai, arrêtés le 23 juin par des forces armées de la RDC à Kinshasa. Ces deux militants âgés d'une vingtaine d'années préparaient une manifestation pour exiger la publication du calendrier électoral car ils sont opposés au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Dans une lettre adressée au ministre congolais de la Défense, l'ACAJ note qu'ils sont détenus au service de renseignement militaire et leur avocat ne sont pas autorisés à les voir. Pour rappel, M. Kalondji a été arrêté en 2015 et détenu pendant 7 mois, dont 4 au secret. Il a été libéré dans le cadre des mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce compromis prévoit l'organisation des élections avant la fin 2017, mais Corneille Nangaa, président de la CENI, vient de dire qu'il sera impossible d'organiser le scrutin avant la fin de l'année.
Le chef de la diplomatie soudanaise a prévenu que son pays pourrait retomber dans la guerre si les sanctions économiques américaines étaient maintenues. Il s'exprimait à la veille d'une décision sur cette question du président Donald Trump. Les États-Unis ont imposé en 1997 un régime de sanctions économiques au Soudan à cause de son soutien présumé au terrorisme. L'ex-président américain Barack Obama avait décidé en janvier dernier la levée de certaines d'entre elles, mais avait prévu une période probatoire de 6 mois avant une possible levée totale. La justice marocaine a ordonné une enquête après la diffusion d'une vidéo qui montre le leader de la contestation dans le nord du pays dans sa prison et qui fait scandale dans le pays. Après la comparution hier de Nasser Zafzafi devant un juge d'instruction, une vidéo le montrant a été diffusée par un site d'information local réputé proche des milieux sécuritaires. L'administration pénitentiaire a démenti que cette vidéo ait été filmée dans une de ses prisons. Le gouvernement algérien dit doit prendre des mesures urgentes face au flux de migrants subsahariens. Cette déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messaël a suscité la polémique dans le pays. L'Algérie est devenue une destination pour les migrants et notre obligation en tant qu'État, c'est d'abord de sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationale. C'est notre droit, a-t-il ajouté. Samedi, le directeur de cabinet du président Abdelaziz Bouteflika avait affirmé que ces étrangers en situation irrégulière amènent le crime, la drogue et plusieurs autres fléaux. En Tunisie, le procès de l'attentat du musée du Bardo s'est ouvert en catimini ce mardi à Tunis, plus de 2 ans après cette attaque terroriste qui avait fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers et un policier. Cette audience qui n'avait pas fait l'objet d'une annonce préalable s'est déroulée en présence des 21 accusés, dont 2 femmes en état d'arrestation, une 30aine de personnes également poursuivies par contumace. Le procès a été reporté au dernier moment et l'identité des accusés est inconnue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mort d'Abdul Bakr al-Baghdadi, chef de Daesh, annoncée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette organisation basée à Londres a été affirmée détenir des informations de hauts responsables du groupe État islamique sur la mort de leur émir. Les explications de Salwa Jafari.
Le directeur de l'observatoire, Rami Abdelrahman, a déclaré à l'AFP avoir reçu l'information sur la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi par de hauts responsables du groupe État islamique de la province syrienne de Deir Zour. La coalition internationale anti-djihadiste sous commandement américain dit ne pas être en mesure de confirmer. Le groupe État islamique non plus n'a pas confirmé ni démenti sur ses canaux habituels de communication. La Russie a affirmé le 22 juin avoir, selon une forte probabilité, tué Baghdadi, dont une frappe aérienne le 28 mai près de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Mais cette information n'a jamais été confirmée par une autre source. Le chef du groupe djihadiste le plus redouté au monde n'a eu qu'une seule apparition publique connue, c'était en juillet 2014 à Mossoul, que ses combattants viennent de perdre dans le nord de l'Irak.
Le Qatar et les États-Unis ont signé un mémorandum d'accord contre le financement du terrorisme. C'est ce qu'ont annoncé les chefs de la diplomatie qatari et américain au moment où Doha est mise à l'index par ses voisins pour son soutien présumé aux groupes extrémistes. Les explications de Nathalie Barche.
Aujourd'hui, le Qatar est le premier pays à signer avec les États-Unis un programme pour la lutte contre le financement du terrorisme, a déclaré à Doha Mohamed Ben Abderrahman Al Thani. Nous invitons les pays qui nous imposent un blocus à s'y joindre, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse avec son homologue américain Rex Tillerson, en visite à Doha, dans le cadre d'une médiation dans la crise qui oppose le Qatar à l'Arabie Saoudite et ses alliés. Le secrétaire d'État, qui a entamé sa tournée au Koweït, doit rencontrer mercredi à Djeddah ses homologues d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et d'Égypte. Ces 4 pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha, accusant l'Émirat de soutenir des groupes extrémistes et de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran.
16 militaires ont péri dans le crash d'un avion des marines américains dans le pire accident militaire aérien survenu aux États-Unis depuis 2000 ans. L'appareil utilisé pour le ravitaillement en carburant et de transport de troupes s'est écrasé hier dans le Mississippi. Le président américain Donald Trump a réagi sur Twitter présentant ses condoléances aux familles des victimes. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Un navire affrété par des militants d'extrême droite européens est en route pour la Méditerranée pour lutter contre l'immigration clandestine au large de la Libye. Cette opération Defend Europe est menée par le réseau européen Génération Identitaire et en particulier ses antennes françaises, italiennes et allemandes. Près de 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés vendredi pour les festivités du 14 juillet, la fête nationale française, notamment lors du défilé sur les Champs-Élysées à Paris, auquel le président américain Donald Trump assistera. Un dispositif anti-drone déjà utilisé ces 2 dernières années a été mis en place avec détection et brouillage des aéronefs afin de neutraliser les engins. Les violences commises en marge du sommet du G20 à Hambourg deviennent un sujet de débat dans la campagne électorale en Allemagne. La chancelière Angela Merkel est accusée par les sociaux-démocrates d'être à l'origine d'un désastre total. Ce sommet des dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète a été ternie par de violents affrontements entre policiers et casseurs. Le maire de la ville, un social-démocrate, a été mis en cause par le camp conservateur de la chancelière pour avoir été incapable de maintenir l'ordre dans sa cité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la minute éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a invité la Banque islamique de développement à relever ses décaissements qui se situent autour de 10%. Cette banque a octroyé depuis 2002 plus de 1 000 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire pour financer des projets d'infrastructure et dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. La compagnie aérienne Emirates a mis un terme à son partenariat avec son homologue angolaise à Tahag en raison d'un différend sur le rapatriement de ses recettes. Le transporteur aérien basé à Dubaï a également réduit le nombre de ses liaisons entre son hub et Luanda. Plusieurs compagnies aériennes se sont récemment plaintes de difficultés similaires dues au manque de devises étrangères en Angola, dont l'économie traverse une crise depuis la chute des cours du pétrole. Le chef de la diplomatie soudanaise a prévenu que son pays pourrait retomber dans la guerre si les sanctions économiques américaines sont maintenues à la veille d'une décision du président Donald Trump sur cette question. Washington a imposé en 1997 des sanctions économiques au Soudan à cause de son soutien présumé à des islamistes, dont l'ex-leader d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden. L'ex-président américain Barack Obama avait décidé en janvier la levée partielle de ces sanctions avec une période probatoire qui se termine mercredi.
Et on démarre cette page des sports présentée par Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Tout d'abord, cyclisme est de 4 pour Marcel Kittel au Tour de France 2017.
Tout à fait. Décidément, dans la course au maillot vert, Kittel a conforté sa position en tête en enlevant l'étape du jour. L'exclusion du Slovaque Peter Sagan qui en était l'humiliable détenteur depuis 2012, puis l'abandon du champion de France Arnaud Demas lui ont ouvert la route. Marcel Kittel porte ainsi à 13 son total de victoires d'étape dans le tour le plus élevé pour l'Allemagne, toute génération confondue. Le record était détenu jusqu'à cette édition par Eric Zabel, la référence du sprint allemand qui a ramené 6 maillots verts entre 1996 et 2001. Pour l'heure, Chris Froome conserve son maillot jaune.
Paris et Los Angeles assurés d'organiser les Jeux Olympiques de 2024 pour l'un et 2028 pour l'autre.
Effectivement, le Comité international olympique CIO a décidé d'attribuer en même temps les Jeux d'été 2024 et 2028 le 13 septembre prochain à Lima au Pérou. Les membres du CIO ont voté cette réforme qui permettra à Paris et à Los Angeles, les deux villes candidates, d'organiser tour à tour de rôle les JO. Ils ont opté pour des négociations permettant à la ville écartée pour les Jeux de 2024 d'accueillir l'édition de 2028.
Football à présent, parlons des transferts. Gaël sera à Amiens et Abli au FC Metz.
C'est exact, le jeune milieu offensif gambien de Génération Foot en première division sénégalaise, Abli Diallo, a signé un contrat de 5 ans avec le FC Metz en France. Le milieu de 18 ans a été sacré champion il y a quelques semaines avec Génération Foot. Le milieu offensif international congolais Gaël Kakuta, 26 ans, lui a signé avec Amiens pour 4 saisons. International français dans les catégories jeunes et espoirs, Kakuta a opté en 2017 pour la sélection des Léopards de la RDC avec laquelle il compte 2 caps et 1 but.
Venus Williams en demi-finale du tournoi de Wimbledon.
Oui, belle performance de l'américaine 11e mondiale en quart de finale. Venus Williams a battu en 2-7 maîtrisé la jeune lettonne récente vainqueur de Roland-Garros 6-3, 7-5. La sœur aînée de Serena Williams devra patienter pour connaître son adversaire du prochain tour. Ce sera Johanna Konta ou Simona Halep qui s'affrontent pour un ticket en demi-finale.
On a peut-être le temps de parler rapidement du rebondissement dans l'histoire de la sextape entre Valbuena et Benzema.
Oui, Abdourahmane, la Cour de cassation française a donné raison à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, dans l'affaire de la tentative de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, dans laquelle il est mis en examen. Cette décision ouvre la voie à l'annulation de la procédure. La Cour d'appel de Paris a été désignée par la Cour de cassation pour juger cette affaire de nouveau.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au Burkina Faso. Un rapport de la commission du Conseil supérieur de la magistrature met en cause 37 magistrats qui ont monnayé leur service. Dans la foulée, les magistrats ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique. Pour en savoir davantage, Yacouba Ouédraogo a joint Victoria Ouédraogo Kibora et les secrétaires permanentes du Conseil supérieur de la magistrature.
Les 37 magistrats épinglés dans le rapport ne sont pas tous accusés d'avoir monnayé leur service au niveau de la justice, parce qu'il y a d'autres types d'infractions pour lesquelles ces personnes sont certainement poursuivies. Ce rapport a été remis officiellement au Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est lui qui a demandé et mis en place une commission chargée de mener l'enquête sur les manquements commis par les magistrats dans le cadre de leur service. Donc ce rapport est revenu naturellement au Conseil supérieur de la magistrature et a décidé de la remise de copie au président du Faso en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au ministre de la Justice.
Dans la foulée, vous vous êtes doté d'un nouveau code de déontologie. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau?
L'adoption de ce code de déontologie contribuera à restaurer la confiance du justiciable dans les décisions de la justice et de leur faire comprendre ou du moins de montrer la transparence des conditions qui guident le magistrat ou le juge dans sa prise de décision et puis de permettre aux justiciables également de comprendre que même au sein de sa juridiction, le magistrat est tenu de certains devoirs d'éthique et de déontologie dans la mission que lui a confiée la Constitution.
Une chose est d'adopter un code d'éthique et de déontologie, une autre chose est de le faire respecter. Pensez-vous en avoir les moyens?
Le caractère de ce code, déjà, caractère contraignant, implique le fait que la violation des dispositions contenues là-dedans est passible de sanctions disciplinaires. Déjà, ça, il faut comprendre que c'est un caractère dissuasif. Et puis, en plus, cela permettra aux justiciables de savoir également les situations dans lesquelles le magistrat ne respecte pas sa déontologie, parce que ce code va être rendu public, va être mis à la disposition de tous, et permettra aux justiciables de se plaindre au cas où il estime que les dispositions du code de déontologie, qui sont désormais contraignantes, ont été violées par un magistrat en fonction.
Est-ce à dire que si un citoyen estime que le magistrat, peut-être en rendant une décision donnée, a violé ce code de déontologie et d'éthique, ce citoyen-là pourra suivre le magistrat en question?
Le justiciable a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature et lorsqu'elle estime qu'elle a été violée dans ses droits par des attitudes qu'il a considérées comme étant des manquements de la part des magistrats.
Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature du Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, Human Rights Watch et une coalition d'organisations locales, la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme, dénoncent l'incapacité du gouvernement de Dakar à mettre fin à la mendicité forcée et l'absence d'une répression dissuasive envers les écoles coraniques. Entre juin 2016 et mars 2017, près de 1550 enfants mendiants ont été retirés de la rue. Eric Manirakiza a joint à New York Jim Warmington, il est chercheur à Human Rights Watch.
C'est bien d'éviter le mot échec parce que c'est une campagne qui a démontré la volonté du gouvernement du Sénégal de s'attaquer à ce problème de la mendicité des enfants. La campagne a beaucoup focalisé sur la nécessité d'une rééducation et une resocialisation des familles et des écoles coraniques qui sont à la base de ce problème de la mendicité forcée, mais a presque ignoré complètement l'aspect d'enquête, de poursuite et de sanctions. Les maîtres coraniques, les écoles coraniques qui envoient les enfants talabis dans la rue pour les forcer à mendier n'ont pas du tout été poursuivis ou sanctionnés pour le fait qu'ils exploitent les enfants dans cette façon. Et ce qu'on a vu en fait, c'est quand il y a les abus physiques ou sexuels, les cas isolés des poursuites contre les maîtres de ces écoles coraniques. Donc c'est pour nous l'essentiel défi qui reste pour le gouvernement du Sénégal. C'est d'assurer que l'approche actuelle soit combinée avec une approche de poursuite et de sanctions.
Au-delà des sanctions, le retrait de ces enfants de la rue demande beaucoup de moyens. Est-ce que le gouvernement sénégalais en a des capacités requises?
D'abord, je ne suis pas trop sûr que ça nécessite beaucoup de moyens. Malheureusement, le fait que les maîtres coraniques n'ont pas vu qu'en réalité, ils seraient sujets des enquêtes et des poursuites, on fait que, au fur et à mesure, la pratique s'est rétablie jusqu'à ce que on arrive à un moment maintenant où il est presque au même niveau qu'avant le début du programme.
Vous interpellez les futurs députés à mettre fin à cette situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement?
L'Assemblée nationale peut bien sûr jouer son rôle démocratique, de demander et d'exiger au gouvernement qu'il fasse une approche plus compréhensive, plus bien réfléchie que le gouvernement a fait pour la première année de ce programme. Et deuxièmement, si il y a une soutien financier qui est nécessaire et si ça se manifeste par une loi pour réglementer les écoles coraniques, ce qu'on appelle les DARA, ce qui est aussi un aspect fondamental d'une stratégie contre ce programme, et de soutenir le passage de cette loi. Mais seulement après l'Assemblée s'est assurée que tous les aspects nécessaires de la loi sont en place.
C'était Jim Warmington, chercheur à Human Rights Watch.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats. Alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement, comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Wad? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, plus de 1000 maisons ont été détruites depuis une semaine par la brigade de démolition de la mairie de Lubumbashi. L'opération concerne des maisons construites anarchiquement autour de la piste d'un aéroport international. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Narval Mabila.
C'est depuis 4h du matin de ce mardi 11 juillet que la résidence d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza est encerclée par la police sans explications officielles. Antoine Gabriel, inquiet et serein, nous explique la situation autour de sa résidence.
Ils sont là depuis 4h du matin. Je ne sais pas, je me demande moi-même pourquoi, parce que moi je ne m'appelle pas Nanga. Les responsables en place croient que nous allons organiser une marche de protestation et tout, et nous sommes en train de tenir des réunions. Ce qui sait, je ne comprends plus rien. Il n'empêche pas les gens de passer, mais ils sont là, très menaçants, et autour de ma maison. Il n'y a rien d'autre, c'est la déclaration des Nanga. Ils sont conscients que la population est très mauvaise humeur et que la population ne va pas accepter cette provocation. Ils disaient, malheureusement pour eux, c'est pas moi qui avais proclamé l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960, c'est pas moi. Mais ça, c'est une espèce d'alibi. C'est faux, c'est autour de la déclaration malencontreuse des Nanga qui a mis mal à l'aise, qui a irriter toute la population.
Du côté de la police, la réponse est simple. Les déploiements de la police est dû à la prévention des événements qui lie la date du 11 juillet, jour de la proclamation de l'indépendance du Katanga. Colonel Eddy.
C'est une date qu'on considère comme étant la date de la sécession katangaise. Pour les nostalgiques, nous, nous sommes la police. Nous sommes une police non seulement en amont, n'est-ce pas, rétablir l'ordre public quand cet ordre est troublé. En aval également, nous pouvons aussi faire un effort pour que, au lieu que les événements nous surprennent, nous prenons l'avance sur les événements. Donc, nous prévenons. C'est ce qui a expliqué le déploiement des forces de l'ordre de sécurité ce matin. Donc, qui n'ont rien à voir avec M. Kou. Donc, c'est dans le cadre peut-être de nos tâches traditionnelles et ordinaires. Il n'y a rien dans la ville. La ville est calme et chacun est en train de vaquer à ses occupations.
Une équipe de la MONUSCO est allée rendre visite à Antoine Gabriel Kiongwa Kumanza pour faire son constat. Officiellement, la ville est calme. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'après Paul Biya se prépare dans certains milieux. Un jeune leader d'opinion, Cabral Libi, a décidé de lancer ce qu'il appelle l'opération 11 millions d'inscriptions. Cette initiative vise à booster l'intérêt des jeunes à la politique par une inscription massive sur les listes électorales. Et pour en parler, John Lyndon a joint Cabral Libi.
Deux choses ou deux motivations. La première, combler un déficit d'intéressement des populations à la chose politique, puisque nous sommes à un an pratiquement de 4 scrutins au Cameroun. Pourtant, il n'y avait, selon les chiffres officiels donnés par l'organisme qui organise les élections, l'ECAM, au Cameroun, que 6,5 millions d'inscrits en décembre 2016, alors que la refonte du fichier électoral a commencé en 2012. Et la dernière élection présidentielle, c'était en 2011, les derniers législatives, c'était 2013, et en 2011, il y avait 7,5 millions d'inscrits. Donc 6 ans plus tard, nous serions à 1 million de moins, alors que la population, elle a augmenté de plus du quart. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'impératif de mobilisation des masses pour l'alternance au Cameroun. Je l'ai toujours dit, on a un système vieux de 35 ans et la désaffection populaire est en partie justificative de cette perpétuité d'un système qui a échoué en plusieurs points.
Vous parlez d'un système vieux de plus de 35 ans. À votre avis, cette opération 11 millions d'inscriptions peut-elle vraiment faire tomber le président Biya, qui est au pouvoir depuis 3 décennies au moins et qui contrôle quasiment tout au Cameroun?
D'abord, nous le savons tous en matière politique, que déboulonner un système aussi vieux que celui-là, ce n'est pas chose facile. L'élection demeure, de mon point de vue, la seule modalité susceptible de renverser un tel système. Moi, j'y crois.
Cabral Libi sera-t-il candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun?
Cela se pourrait, mais je l'ai toujours dit, on n'en est pas encore là. Moi, je me suis senti honoré, et c'est d'ailleurs toujours le cas, d'être le choix de mes compatriotes. J'ai appelé ça l'appel authentique du peuple, en contre-pied à ces appels montés que nous connaissons au Cameroun, qui sont généralement adressés au président Paul Biya, qui, je le rappelle, a 85 ans déjà. Je me suis senti honoré par cet appel authentique de mes compatriotes, et je leur ai dit, d'accord, si vous voulez que je sois candidat, certainement vous voulez m'élire le moment venu. Mais comment m'éliriez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales?
Qu'est-ce qui justifie votre séjour ici et comment ça se passe?
Je suis aux États-Unis, ça se passe plutôt bien, et je suis là pour répondre rapidement à votre question, pour sensibiliser mes compatriotes de l'étranger. Eux aussi, ils ont leur mot à dire.
C'était Cabral Libi, initiateur de l'opération 11 millions d'inscriptions au Cameroun, joint ici à Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Partagez bien la planche.
001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Michel Joseph, à la console Bill Barbe. Présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.